Ah, c'est bon. Parce qu'il faut être branché dans la vie. Hein. Il faut être branché avec le boss. Ça fait du 220 volts. Galates 2, verset 20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est un des fondements de l'évangile. D'abord, merci beaucoup à Ernest, à Evelyne et à tout le groupe de m'avoir invité. C'est nouveau un privilège pour moi d'être parmi vous et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Hier soir, on discutait avec Ernest, ça, et vous savez, derrière un grand homme de Dieu, il y a toujours une grande femme de Dieu. Amen. On peut l'applaudir aussi. Souvent, c'est Ernest qui reçoit tous les honneurs, mais la femme aussi. Vous savez, ma femme, pour ma femme, c'est pareil, elle me libère les week-ends, tout ça, c'est pas facile avec deux enfants. C'est pas facile et vraiment, nous devons respecter et honorer les femmes. N'est-ce pas, les hommes? Ok. J'ai pas entendu beaucoup d'amen, hein? Ok. Je fais juste un peu de publicité avant de commencer. Peut-être vaut mieux que j'aille comme ça? C'est mieux comme ça? Ok. Je fais un peu de publicité avant de commencer. J'ai 6 CD sur la sexualité. Je sais que ça ne vous concerne pas. C'est pour les autres. Mais c'est des principes divins. Comment Dieu voit la sexualité et ce que Dieu dit sur la sexualité et pourquoi le mariage est tellement important et pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait de rapport sexuel en dehors des liens du mariage. Je vous recommande vraiment ces CD pour vous, pour les enfants, pour parler aux enfants, pour expliquer comment ça se passe et ainsi de suite. Ensuite, j'ai aussi ces deux CD sur la délivrance, c'est sur les liens ancestraux et là il y a une prière dedans. Vous écoutez les CD, vous faites la prière. Et si vous toussez, vous faites sortir tout ce qu'il y a dedans, c'est pour la délivrance. Et ensuite, mon dernier livre. Mes correcteurs ont dit que c'est mon meilleur livre. C'est un livre pour les jeunes et pour les parents qui les aiment. Je parle de beaucoup de principes. Ce qu'est réellement l'humilité. L'importance d'un père spirituel, le principe de l'alignement ou de l'accord, et ainsi de suite. Et les relations, l'importance des relations, l'influence des relations, ce qu'elles ont, les relations dans notre vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et à plein de principes divins, je vous encourage même à prendre ce livre. Qui le veut? Ok, vous pouvez le prendre au stand, je vais l'offrir à votre berger. Alléluia! Alléluia! Voilà, merci Saint-Esprit pour ta présence. On te promet de te donner toute la gloire pour ce que tu vas faire. Merci de glorifier Jésus dans ces lieux. Merci Père, que les cœurs soient ouverts, que les forteresses, les raisonnements, toutes les hauteurs, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé et qu'un esprit de révélation soit là, que les yeux du cœur soient illuminés, Père. Je prie, Père, que tu touches les cœurs, que les vies soient changées, que les vies soient transformées, Seigneur, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges par ta main. Et nous te promettons, Père, de te donner toute la gloire pour tout ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen et amen. Alléluia. Dieu a établi des lois. Il a établi des lois naturelles et des lois spirituelles. La loi naturelle, par exemple, une des lois naturelles, c'est la loi de la gravité. Une loi, c'est quelque chose qui se reproduit tout le temps. La loi de la gravité. Si n'importe qui prend un objet, qu'il le lâche, cet objet va tomber, il va pas monter, il va pas partir ni à gauche, ni à droite. Ça marche et ça fonctionne pour tout le monde. Et Dieu a établi des lois, et il y a aussi des lois spirituelles. Et ces lois fonctionnent toujours. Par exemple, il y a une autre loi naturelle, c'est la loi de la semence et de la moisson. Et cette loi fonctionne aussi dans le spirituel. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Donc tout ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Ensuite, il y a une autre loi spirituelle qui fonctionne toujours pour tout le monde. Et cette loi spirituelle concerne le pardon. Et je vais partager avec vous sur le pardon. Que signifie pardonner? Je vais d'abord parler du pardon de Dieu. Que signifie pardonner? Pardonner signifie être libre de quelque chose. Pardonner signifie être libre de quelque chose. Et Le pardon est une des bases de notre salut. Ne pas croire au pardon de Dieu nous empêchera de recevoir les autres promesses de Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné, quand vous êtes venu à lui, vous n'avez aucune base valable. Vous n'avez rien qui puisse vous permettre de vous approprier et de saisir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu promet, c'est ce qu'il accomplit. Mais si nous avons un problème avec le pardon, de recevoir le pardon de Dieu pour notre salut, de recevoir le pardon de Dieu quand nous péchons, nous avons un problème dans notre vie spirituelle pour pouvoir prendre les autres promesses de Dieu qui sont oui et amen. C'est pour ça que le pardon est tellement important. Et pour profiter pleinement du pardon de Dieu, trois étapes sont nécessaires. Premièrement, la foi. La foi. La foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. La foi de ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu parle beaucoup du pardon dans sa parole. Si nous ne croyons pas, vous savez, des fois, Dieu dit des choses dans sa parole, mais nos sentiments, nos émotions ou les circonstances peuvent dire autre chose. Et la question est, que croyons-nous ? Est-ce que nous croyons nos sentiments ? Est-ce que nous croyons ce que les circonstances nous disent ? Ou est-ce que nous croyons ce que la parole de Dieu dit ? C'est la question. Et chacun de nous, on a reçu une mesure de foi. Mais dans quoi plaçons-nous notre foi ? Dans quoi investissons-nous notre foi ? Est-ce qu'on investit notre foi dans la parole de Dieu, qui est éternelle ? Ou est-ce que nous plaçons notre foi dans les circonstances extérieures ? Est-ce que nous plaçons notre foi dans ce que nous ressentons ? Est-ce que nous plaçons notre foi dans ce que nous voyons ? Ou est-ce que nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu qui est éternelle ? C'est la question. C'est la question. La foi commence là où nous avons une révélation de la volonté de Dieu. La foi commence là où nous avons une révélation de la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, la foi nous sera communiquée. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez bien, la foi vient. La foi vient. Elle ne vient pas peut-être. La foi vient. C'est une certitude. Si tu entends la parole de Dieu maintenant, et si ton cœur est ouvert, et tu reçois ce que Dieu te donne, la parole de Dieu que Dieu te communique maintenant, dans ce message, va communiquer la foi dans ta vie. Et c'est à toi après de faire un choix. Ça, c'est la deuxième étape. Est-ce que tu choisis de recevoir ce que Dieu veut te donner ? Parce que nous pouvons le refuser. Des fois, il y a des raisonnements, des hauteurs, des forteresses, la Bible dit. Il y a des raisonnements qui sont là, des forteresses. Il y a des raisonnements qui sont là, qui peuvent nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Par exemple, concernant le pardon, j'ai discuté avec des gens dans la rue. Des gens me disaient, non, mais Dieu ne peut pas me pardonner à moi. Je dis, mais pourquoi Dieu ne peut pas vous pardonner ? Pourquoi ? Donnez-moi une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas me pardonner. Les gens me disent, non, mais vous savez ce que j'ai fait ? Dieu ne peut jamais me pardonner, c'est impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel péché que tu as fait. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Le sang de Jésus est plus fort que n'importe quel péché que tu as fait. Et le sang de Jésus te purifie. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il lave mieux que homo. Le sang de Jésus, il te lave. Tu es plus blanc que neige, dit la Bible. Il te lave. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de péché. Quand tu as invoqué le sang de Jésus, c'est comme devant Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Waouh ! Comment est-ce que c'est possible de s'approprier cela ? Par la foi. La foi, c'est se saisir. La foi, c'est prendre. Est-ce qu'on le mérite ? Non, c'est une grâce. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et personne ici mérite quoi que ce soit. On mérite tous la mort parce que tous nous avons péché. Mais dans sa grâce, Dieu a donné son Fils. Et si on accepte cela, si on accepte son Fils, Jésus-Christ, comme Sauveur et comme Seigneur, Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Waouh ! Le pardon de Dieu est puissant. Le pardon de Dieu peut te libérer si tu le reçois, si tu crois. Mais inversement aussi, le manque de pardon va nous garder liés. Et c'est ce que le diable veut. Le diable est venu pour tuer, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus, il est venu. Alléluia, pour libérer les captifs. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le diable est un menteur. Mais le Père de la vérité, il te dit que tu es pardonné. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Mais qui croyons-nous? Que croyons-nous? Est-ce que nous croyons la vérité? Ou est-ce que quand on a péché, les sentiments sont là? Ils disent, mais non, Dieu ne peut pas te pardonner ceci, Dieu ne peut pas te pardonner cela, Dieu ne peut pas te pardonner ceci. Premièrement, la foi en ce que Dieu dit dans sa parole. Deuxièmement, ce que je choisis de croire. Et troisièmement, agir ce que j'ai cru. Si je crois que j'ai été pardonné, je ne vais pas marcher comme un coupable. Si je crois que j'ai été pardonné, je vais marcher comme quelqu'un de libre. Faut que tu entends. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Premier point. Deuxième point, tu t'appropries, tu te saisis de cela, et après tu marches dans cela. Même si tes émotions disent le contraire, même si tes pensées te disent le contraire, parce que le combat que nous avons, écoutez bien, le combat que nous avons, parce que nous avons un combat en tant que chrétien, mais le combat que nous avons est un bon combat, dit la Bible. C'est le bon combat, c'est un bon combat. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Nous avons un bon combat, le combat de la foi. Et pourquoi c'est un bon combat? Parce que ce combat, il a été déjà remporté. La victoire nous est assurée. À la croix, tout a été accompli. Mais c'est à nous de nous saisir de cela. C'est à nous de prendre cela et de vivre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Un jour, il y a une personne qui vient et elle est venue vers un serviteur de Dieu, un prophète. Et il dit, vous savez, le prophète, il vient, il la regarde comme ça. Il dit, ah, madame, vous avez commis un péché. Il y a 20 ans de cela. La femme, elle dit, c'est vrai, depuis 20 ans, je suis malheureuse et ci et ça. Et tout va mal. Le prophète lui dit, vous savez, Dieu ne se rappelle plus de votre péché. Pourquoi est-ce que vous vous rappelez? Dieu avait pardonné à cette femme. Mais cette femme croyait que Dieu ne lui avait pas pardonné. Et peut-être elle ne s'est pas pardonnée elle-même. Donc ce qui est important dans le pardon, c'est que tu te pardonnes à toi-même. C'est que tu reçoives le pardon de Dieu. Parce que Dieu t'a pardonné. La Bible dit que Dieu, il a pris nos péchés et qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Waouh! Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène toujours tout sur la disquette. Il te ramène tout. Mais ton péché, Dieu l'a pris, il l'a jeté dans la mer et il a mis une pancarte « Pêche interdite ». Alors arrête de sortir tout le temps ta canne à pêche et de retourner à la mer. Allez, je pêche encore. Tu te rappelles ce que Dieu ne veut même plus se rappeler. Oublie, le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purifié. Mais la question est, pourquoi tellement de chrétiens ont des problèmes avec le pardon? Pourquoi tellement de chrétiens vivent dans la culpabilité? Pourquoi tellement de chrétiens vivent dans la condamnation? Pourquoi? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Une des raisons essentielles, c'est qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne comprennent pas le fondement sur lequel Dieu nous pardonne. Parce que Dieu a un fondement sur lequel il nous pardonne. Et le fondement sur lequel Dieu nous pardonne est un de ses traits de caractère. Mais quel est le trait de caractère ou quelle est la nature de Dieu qui nous pardonne? Est-ce que c'est sa miséricorde? Ou est-ce que c'est sa justice? Est-ce que c'est sa miséricorde? Ou est-ce que c'est sa justice? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous pensez? La miséricorde? Ok. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont des problèmes, parce qu'ils pensent que c'est lié à sa miséricorde. Et quand ils pêchent, ils se disent, ouh là maintenant, la miséricorde de Dieu, elle est à son terme. Dieu maintenant, il ne peut plus me pardonner. J'ai trop tiré sur la corde, misère, ricorde. J'ai trop tiré sur la corde, c'est la misère. J'ai trop tiré sur cette corde de la miséricorde. Et la corde, elle a cassé. C'est ce que certains chrétiens pensent. Mais le fondement du pardon de Dieu et la justice de Dieu et sa motivation, c'est la miséricorde. Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec la parole de Dieu. Et je prie vraiment que vous saisissiez de cela, parce que comprendre ce message va vous amener dans une liberté où le diable ne peut plus vous accuser. Alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean, pardon, 1er épître de Jean 1, verset 9. C'est un texte qui est très connu. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande ? De reconnaître nos péchés devant lui. Ça signifie amener les choses à la lumière. Parce que Satan est le prince des ténèbres. Et Satan travaille dans les ténèbres. Mais quand nous amenons les choses à la lumière, il n'a plus de droit. C'est pour ça que Jésus a été crucifié en plein jour. C'est pour ça que Jésus a été crucifié à la croix à la vue de tout le monde. Parce que c'est une œuvre qui a été faite dans les lumières, dans la lumière. Et tout ce qui est fait dans la lumière, le diable n'a plus de droit. Ça veut dire que quand on amène nos péchés à la lumière, le diable n'a plus de droit. Mais tant qu'on les cache, tant qu'on enfuit nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Ça a des répercussions sur toute notre vie. David disait, tant que je me suis tué et que j'ai pas confessé mes péchés, mes os, vous connaissez ce verset? Donc il faut amener les choses à la lumière. Va trouver un frère, une sœur, un prêtre, va trouver le berger, va trouver quelqu'un et confesse ton péché. Tu dis, écoute, j'ai fait ça et ça, ou toi, tout seul avec Dieu. Mais si des fois tu as des combats, parce que ça revient tout le temps, et tu n'arrives pas à avoir la victoire, va trouver quelqu'un. Confesse. Et après, quand l'ennemi t'attaque, tu dis, attends, j'ai un témoin. J'ai confessé au prêtre, j'ai confessé au berger, j'ai confessé à un frère, j'ai confessé à une sœur ce péché. C'est fini. Il est confessé. Qu'est-ce qui se passe après la confession? Si nous reconnaissons nos péchés, que va-t-il se passer? Il est fidèle. Et il est juste. Il est juste. Il est juste. Il est juste et par conséquent, parce qu'il est fidèle et juste, quelle est la conséquence? Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons connu. Ce texte nous révèle qu'il est fidèle et juste et que les conséquences de sa fidélité et de sa justice, c'est le pardon des péchés. Pour bien illustrer ce que je vais partager avec vous, je vais prendre une histoire. Ou vous illustrer cela à travers une histoire. Imaginez-vous, il y a Paul qui vient maintenant ici. Paul. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul ici? Personne? Paulette? Personne? Ok. Paulette, eh ben voilà. Il y a mon amie Paulette qui est là. Elle est encadrée de deux policiers. Deux policiers l'amènent. Parce qu'il y a 20 ans, elle a fait un vol et elle a volé 1 million d'euros. Et elle est amenée ici dans ce tribunal et moi, je suis le juge. Alors, je la regarde et je vois Paulette. Et Paulette, c'est mon amie. On se connaît depuis longtemps. Mais je ne savais pas, moi, qu'elle avait fait un coup et qu'elle avait volé 1 million d'euros. Maintenant, j'ai un problème. Parce que j'aime bien Paulette. Mais j'ai un autre problème. Il faut que je la condamne. Parce que je suis juge. Mais j'aime bien Paulette parce que c'est mon ami. Mais en même temps, je dois la condamner parce que je suis juge. Alors, si je dis, bon, je te fais miséricorde, tu t'en vas, on peut continuer à l'accuser. Parce que la justice n'a pas été faite. Mais comme je suis juge, je ne peux pas simplement la relâcher, puisqu'elle a commis un crime et que la loi punit ce crime. Et ce que la loi dit, le minimum qui doit être fait, c'est qu'elle rembourse ce million d'euros. C'est le minimum. Et si elle ne rembourse pas, c'est 10 ans de prison. Le problème, Paulette, elle a fait la fête. Elle a claqué le million d'euros. Elle n'a plus un cent. Elle n'a plus rien. Elle a fait la fête. Elle a acheté une belle maison aux Antilles. À la Martinique, avec piscine et tout, vue sur la mer. Mais elle a joué au casino et elle a tout perdu. Même la maison, elle n'a plus rien. Plus rien du tout. Alors, je suis dans un problème. Parce que Paulette, c'est mon amie. Mais j'ai un autre problème. Je suis juge. Je dois donc la juger. Mais en même temps, c'est mon amie. Et je sais qu'elle n'a plus d'argent. Mais la loi dit qu'elle doit payer 1 million d'euros. Elle doit rembourser cet argent. Donc, en tant que juge, qu'est-ce que je fais? Je prends mon marteau. Je dis, voilà, Paulette, la justice de ce pays vous condamne à rembourser les 1 million d'euros que vous avez pris à cette personne. Vous êtes condamné maintenant. Paf, je frappe sur la table. Et là, il y a un problème. Elle n'a plus d'argent. Elle ne peut pas le rembourser. Donc, elle doit faire 10 ans de prison. Mais c'est mon ami. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis à 1 an de ma retraite. Toute ma vie, j'ai économisé. Et j'ai exactement 1 million d'euros sur le compte. J'enlève ma robe de juge. Je descends. Et je dis, voilà Paulette, je signe 1 million d'euros. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu Il a envoyé son fils, qui était sous forme de Dieu, dit la Bible. Et il est venu, il a laissé une partie de sa divinité, il est venu en tant qu'homme sur cette terre. Il a laissé ses attributs divins, dit la Bible. Et il est venu en tant qu'homme sur la terre. Et il a payé pour toi et pour moi ce que toi et moi, nous ne pouvions pas payer. Et un acte a été établi. C'est un acte de justice. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un devait mourir à cause du péché. Et c'est toi et c'est moi qui devions mourir. Mais Christ a été crucifié à ta place et à ma place pour que toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. Écoutez bien maintenant. Ça, c'est très important. C'est très important. Sur quoi repose le pardon ? Le pardon repose parce que la justice ou la demande de justice de Dieu a été accomplie. Mais ce qui a poussé Dieu, c'est sa miséricorde. Donc le moteur ou la motivation de Dieu, c'est la miséricorde. Mais l'acte, c'est un acte de justice. Qu'est-ce que ça signifie ? On va reprendre cet exemple. Mon amie Paulette, maintenant, elle a payé, donc elle est libre. Vous êtes d'accord avec moi ? Qui ici peut l'accuser de devoir payer quoi que ce soit ? Personne ne peut l'accuser, parce que le prix a été payé devant la justice, devant la loi, elle est libre. Personne ne peut l'accuser. Vous comprenez cela ? Et vous aussi, personne ne peut vous accuser. Dieu qui est le juge, il vous accuse plus. Il vous accuse plus de ce qui a été payé à la croix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Ce que la justice demandait a été accompli. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli à la croix. Alors mon ami, pourquoi continues-tu à te laisser accuser ? Alors qu'il n'y a aucune accusation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi ? Parce que le pardon repose sur un acte de justice. La justice de Dieu, ce que Dieu attendait pour pouvoir pardonner, a été accompli à la croix de Golgotha. Alors saisis-toi de cela, prends cela, c'est pour toi mon ami. Amen. Vous êtes enthousiasmé. Vous avez saisi ce que je partageais avec vous ? Le pardon devant Dieu repose sur un acte légal devant Dieu. C'est très important. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela est très important ? La motivation, nous avons vu, est Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappe à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ça veut dire que si tu as placé ta confiance en lui, pas en toi, en lui, ce que lui a accompli à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui se passe ? Tu échappes à la perdition. Ça veut dire que tu vas pas en enfer. Et tu reçois quoi ? La vie éternelle. Amen. Tu as déjà la vie éternelle. Parce que Jean 17 dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui. La vie éternelle, c'est parce que tu auras un jour. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu que tu as déjà reçue maintenant. Et parce que la vie de Dieu est en toi, la mort n'a aucun pouvoir. La mort qui veut venir, la maladie, n'a aucun pouvoir sur ta vie. Vous comprenez cela ? Avant le temps de Dieu, tu ne mourras pas si tu comprends cela. Un jour, vous savez, il y a de la puissance dans la vie de Dieu. Vous savez, l'Église, des fois, elle manque tellement d'enseignements. Si on comprend la puissance de la vie de Dieu. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était en Afrique du Sud. Il travaillait parmi les lépreux. Écoutez bien ça, c'est fort. C'est fort si on comprend ça. Il travaillait parmi les lépreux. Et il touchait les lépreux et tout ça. Et les médecins, ils ont dit, mais vous n'avez pas peur d'attraper la lèpre ? Il dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Et les médecins, ils ont pris de la lèpre. Il a pris de la maladie de la lèpre là, je ne sais pas ce que c'était. Il a mis ça sous sa main. Et les médecins, ils ont regardé au microscope. Et pendant qu'ils regardaient au microscope, ils ont dit, mais toutes les cellules, tout ce qui est lié à la lèpre est en train de mourir. Il dit, c'est normal, parce qu'en moi, il y a la vie de Dieu. Et la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la mort. Prouvé médicalement, cet homme croyait. Et parce qu'il croyait, ça a libéré la puissance de Dieu. Crois que la vie de Dieu est en toi. Crois que la vie de Dieu est plus forte que la mort. Crois que la vie de Dieu qui est en toi est plus forte que la maladie. Amen. Parce que c'est la vie de Dieu. C'est Christ lui-même qui vit en toi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Et parce que Christ vit en toi, alléluia, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que le petit qui est dans ce monde. Version Thierry Cope, chapitre 1. Ça va ? Celui qui est en moi est plus grand que le petit qui est dans ce monde. Trop de gens, ils ont un grand diable. Le diable est vaincu. Il peut uniquement faire dans ta vie ce que tu lui permets qu'il fasse. Quelqu'un est venu, il m'a dit, Thierry, mais tu fais beaucoup de délivrance, tu dois avoir beaucoup de combats, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Je dis, non, ça va. Mais t'es pas malade, t'as pas ceci. Je dis, non, ça va. Mais tu n'as pas mal au dos, t'as pas ceci. Je dis, mais non, ça va, tout va bien. Tu vas pas m'inventer des maladies quand même, non? Vous savez pourquoi les gens, ils pensent comme ça? Parce qu'ils manquent d'enseignement. Que dit la parole de Dieu? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que dit la parole de Dieu encore? Je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Mais je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Mais le diable, il veut pas que tu crois ça. Parce que si tu crois pas cela, tu vas ouvrir la porte. Parce que la foi, comme la peur, est une porte. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Si tu crains que tu vas être malade quand tu commences à faire du combat spirituel, si tu crains que quand tu fais du combat spirituel, le diable il va t'attaquer, il va te faire du mal ou à ta famille, tu sais ce qui va arriver? La crainte ouvre la porte. Mais la foi ferme la porte. Alléluia. Amen. Tu attires toujours ce que tu crois. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. De quoi as-tu peur? Vous savez, les jeunes, des fois, ils disent, même pas peur, même pas peur, même pas peur. Pourquoi t'as peur? T'as peur de quoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, un homme avec Dieu ou une femme avec Dieu est toujours en surnombre. Toujours. Toujours. Si Dieu est avec toi, de quoi as-tu peur? Si Dieu est avec toi, de quoi t'as peur? Un jour, il y a un homme de Dieu, il dormait. Et le diable est venu, vraiment le diable, hein, pas un démon. Le diable est réellement venu à son lit. Vous savez, le diable, il n'est pas partout, hein, il n'est pas comme Dieu omniprésent. Il est vraiment venu, cet homme. Et cet homme de Dieu, il s'est réveillé. Il dit, oh, c'est encore toi. Il s'est retourné, il a continué à dormir. Ne lui attachons pas l'importance qu'il n'a pas. Les puissances ont été dépouillées à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Il a été dépouillé, alléluia. Amen. Si tu crois qu'il est puissant, il sera puissant dans ta vie. Mais c'est un menteur. La seule arme que le diable a, c'est le mensonge. Parce que c'est le père du mensonge. Et à travers du mensonge, il y a la séduction. La séduction, c'est de faire croire un mensonge. Tout est lié au mensonge. Tout est lié au mensonge. Alors, si tu connais la vérité, tu reconnaîtras les mensonges. Et c'est la vérité qui te libérera. C'est la vérité qui t'affranchira. Mais tant que tu connais pas la vérité, tu croiras les mensonges. C'est pour ça qu'il est tellement important de connaître la vérité et la vérité vous rendra libre, ou de connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est que Satan est sous tes pieds. Alléluia. La vérité, c'est qu'il est vaincu parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, tu es en Christ. Demeure en lui. Demeure en lui. Et quand tu es en lui et que tu demeures en lui, Satan est sous tes pieds, parce que nous sommes le corps de Christ, dit la Bible. Même si tu es un doigt de pied, Satan est sous tes pieds. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ, alléluia. Une église victorieuse. Amen. Pas une église défaitiste. C'est si difficile la vie chrétienne, c'est cela. Des fois on se croirait à Jérusalem, au mur des lamentations. Ils sont en train de se lamenter, c'est si difficile, c'est dur d'être chrétien, c'est pas facile, c'est ceci, c'est cela, mais arrête, sois rempli de Saint-Esprit. Si t'es rempli de Saint-Esprit, tu seras rempli de joie, et la joie du Seigneur est ta force. Amen, amen, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Amen, si Dieu est avec toi, c'est sûr que t'es du côté du vainqueur, et tu es avec Dieu, et Dieu est avec toi. Les anges qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont tombés. 2/3 des anges sont avec toi contre 1/3. Déjà, tu es en surnombre. En plus, tu as Shekoramanderobosokorabada. Tu as le parler en langue. En plus, il y a le sang de Jésus qui est là. En plus, il y a tellement d'armes. Tu as le bouclier de la foi, tu as l'épée de l'esprit, tu as la parole de Dieu. On a tellement d'armes. Les armes que nous avons sont puissantes, dit la parole de Dieu. Les armes que nous avons sont puissantes. Mais le problème, il y a des gens, ils sont passifs. Alors, ils n'utilisent pas les armes. Il y a des chrétiens, ils sont musulmans. Si, il y a des chrétiens qui sont musulmans. Vous savez pourquoi? Ils disent, Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Si Dieu veut pas, il le fera pas. Si Dieu veut, il le fera. Si Dieu veut, ben, si Dieu veut, si Dieu veut. Si Dieu veut, il le fera. Mais Dieu t'a déjà guéri à la croix. Saisis-toi de cette guérison. Amen. Dieu, il a déjà vaincu les démons. Alors prends ta victoire. Empare-toi du bon pays de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu te donne. Sois un guerrier. Alléluia. Soyez des guerriers de l'Éternel. Amen. Alléluia. Là, j'entends pas les hommes, là. Hein. C'est plus les femmes. Hein, mais la Bible, elle parle des femmes, hein, que c'est des guerrières de l'Éternel. La Bible en parle. Des fois, dans les combats, dans la prière, on voit plus les femmes que les hommes, hein, dans la réunion de prière. C'est pas comme ça chez vous? Hein? Les hommes, c'est la télé et la bière. Nous sommes en train de combattre. Amène-moi encore une petite croix d'amour. Hein? Je crois que la Bible, elle parle même des vaillantes guerrières. Mais l'Église a besoin que les hommes se lèvent. Alléluia. Les hommes, levez-vous. Prenez votre position dans la guerre. Vous savez, le diable, il nous combat. Parce que le diable, il sait quand les hommes commencent à se lever, ils commencent à prier, pétard de pétard, ça bouge. Ça dégage de tous les côtés. C'est vrai. Mais nous, les hommes, des fois, ouais, l'Église, c'est des trucs de bonnes femmes, ça, nous, on n'a rien à voir. Macho, macho, macho. Hein, c'est... Nous, on est des mecs, nous. C'est, hein, ouais. Être un vrai homme, c'est être comme Jésus. Alléluia. Être un vrai homme, c'est être comme Jésus. Humble et doux de cœur. Amen. Comment est-ce que Jésus traitait les femmes? Chaque femme qui repartait après avoir rencontré Jésus, elle ne se sentait pas plus sale. Elle repartait propre. Elle repartait pleine de dignité. Elle repartait en étant relevée. Ça, c'est mon Jésus. Et Jésus est notre modèle. Vous voyez pourquoi je parle aux hommes comme ça? Est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ça? Saint-Esprit vous connaît. Hein? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont besoin d'entendre ça, peut-être? C'est mon message, c'est sur le pardon. Sa miséricorde a été la motivation pour donner son fils, son unique, afin que ce dernier accomplisse pleinement sa justice. Sa justice devait être accomplie par la mort de son fils Jésus. 1 Pierre 3, verset 18, 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. » Une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables. C'était qui les coupables? C'était nous. Il est mort pour nous. Afin de nous conduire à Dieu, il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la demande de la loi de Dieu est satisfaite. Il est donc, écoutez bien cela, Dieu est moralement et légalement obligé de me pardonner. Dieu est moralement et légalement obligé de me pardonner. Parce que la croix, c'est un acte légal, c'est un acte spirituel qui a été posé. Satan, il ne peut pas venir vers Dieu et dire « Dieu, tu es injuste, Dieu, tu es ceci, Dieu, tu... il ne peut rien faire. » Parce que ça a été fait légalement. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Un homme a péché, tous sont devenus pécheurs. Un homme a vécu la justice de Dieu. Il a accompli ce que toi et moi, nous ne pouvions pas accomplir, c'est-à-dire vivre une vie sans péché. Et grâce à lui, beaucoup seront déclarés justes. C'est pour ceux qui croient, pas pour ceux qui ne croient pas. Si tu crois, tu vas t'approprier de cette justice. Si tu crois, tu vas t'approprier de l'œuvre de la croix. Si tu ne crois pas, vous savez, des fois, je prêche sur la prospérité. Et la prospérité, c'est avoir tout ce que Dieu veut qu'on ait pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu nous demande qu'on accomplisse. Amen. Et quelqu'un vient à moi et me dit, « Pasteur, je ne crois pas à la prospérité. » J'ai fait, « Monsieur, je vous rassure, ça ne vous arrivera pas. » Si tu ne crois pas, tu vas pas, ça ne va pas venir vers ta vie. Si tu crois qu'il faut être pauvre pour être saint, pour être pieux, tu ne vas pas prospérer. Si tu crois que Dieu te donne une maladie pour te rapprocher de lui, pourquoi tu prends des médicaments alors pour guérir? Tu pèches contre Dieu, tu vas contre la volonté de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. L'auteur de la maladie, c'est Satan. J'aimerais bien entendre un amen. Amen. Parce que Dieu, il peut te donner uniquement ce qu'il a. Et au ciel, il n'y a pas de maladie. Ou bien? Et si la maladie était la volonté de Dieu, alors Jésus, il n'a pas fait la volonté de Dieu en guérissant tous ceux qui venaient à lui. Jésus n'a pas fait la volonté de Dieu en guérissant les malades, en chassant les démons. Vous comprenez cela? C'est très important de bien comprendre, d'avoir des bons fondements dans la parole de Dieu. Parce que sinon, on va permettre au diable de faire ce que Jésus a vaincu et ce que Dieu ne veut pas qu'on lui permette. Ça va? Vous savez, lâche tous, j'ai le rhume et tout. Je dis, au nom de Jésus, la maladie, t'as aucun droit dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de place pour toi, tu dégages. Je refuse toute maladie. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Et c'est un combat. Parce que mon nez, il fait... Et les voisins, ils font, tchoum. Ah, tchoum. Je dis, au nom de Jésus, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je refuse cette maladie. Maladie, tu n'as aucun droit dans mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient à Dieu. Et aucune maladie, aucune arme forgée contre moi aura quelconque effet. Amen. Alléluia. Et si l'ennemi vient par un chemin, il devra fuir par sept chemins, dit la Bible. S'il vient par un chemin, il doit fuir. Il doit fuir par sept chemins. Mais si tu as peur, il ne fuira pas. Parce que normalement, si tu comprends réellement la parole de Dieu, tu comprends que c'est le diable qui a peur de toi. Un jour, écoutez bien, et ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est une vérité, et je ne dis pas ça pour frimer, je n'ai pas besoin de frimer. J'étais assis dans une église de maison, et un prophète vient. C'était un orthodoxe, avec, vous savez, les longues robes, tout ça. C'était même plus qu'un prêtre, hein. Plus qu'un prêtre, c'était comme un évêque, un genre, comme un évêque orthodoxe. Ah, le gars, il vient habillé comme ça, et il était spécial, le gars, c'était vraiment un prophète. Et il vient avec sa canne et tout, et Shikaramandegorobolosoko. Il faisait la louange avec un accordéon et tout, il vient des pays de l'Est. Mais trop bon, le gars, vraiment bien. Et il vient vers moi comme ça. Il me dit, écoutez, je ne vous connais pas, mais Dieu me montre que vous faites beaucoup de délivrance et que le diable a peur de vous. Je dis, waouh, le diable a peur de moi. Le diable a peur de toi parce que Christ vit en toi. Si tu comprends cela, tu vas passer de poursuivant. Peut-être avant, tu étais poursuivi parce que tu avais peur. Mais si tu commences à comprendre qui tu es, c'est le diable qui va avoir peur de toi. Le diable, il n'a pas peur des chrétiens. Il a peur des chrétiens qui savent qui ils sont en Jésus-Christ. Il a peur des chrétiens qui comprennent leur autorité et qui utilisent l'autorité que Dieu leur a donnée. Il a peur de Ernest parce que Ernest sait qui il est. Amen. Et il doit avoir peur de toi. Vous savez, des chrétiens se lèvent le matin. Ça va être terrible aujourd'hui. Le diable va m'attaquer. Il va se passer plein de choses aujourd'hui. Ça va être terrible. Je vais me lever. Ça va être terrible. Et la couverture, dépression, tout va mal. C'est si difficile.
Mais le matin, quand tu te lèves, si tu sais qui tu es en Christ, tu sais ce qui se passe. Le diable dit, oh non, il se lève nouveau celui-là. Il va de nouveau attaquer mon royaume. Il va de nouveau me causer plein de problèmes. Les malades vont de nouveau être guéris. Les démons vont être chassés. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il ne faut pas qu'il se lève. Je vais essayer d'envoyer une maladie. Maladie, mais ça ne marche pas. Il ne croit pas. Il sait qu'il est en Christ. La maladie, ça ne marche pas. Je vais essayer d'envoyer une belle femme. Et là, l'homme regarde et dit non, je suis marié, n'est-ce pas monsieur? Et je reste fidèle à ma femme. Ta fidélité est grande. Je suis mort à moi-même, je donne pas de place à ma chair. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai la plus belle femme, c'est la mienne. J'ai la plus belle femme. Très bonne réponse. Vous voyez, c'est une bonne réponse. La plus belle femme, c'est la tienne. Les hommes, vous dites pas amen, non? Hein? Maintenant, imaginez-vous, je reviens à Paulette, mon amie. Alors, Paulette est là. J'ai payé 1 million d'euros, donc elle n'a plus de dettes. Mais maintenant, imaginez-vous que Paulette se dise, je vais rajouter encore 50 euros à ce million. Je vais encore payer quelque chose en plus. Est-ce que le juge qui a payé 1 million, il est content? Il n'est pas content parce qu'il se dit, mais attends, mais j'ai tout payé, pourquoi tu vas payer encore? Et c'est ce que des fois on fait en tant que chrétien. On a péché, on se dit, je vais lire un peu plus ma Bible maintenant. Je vais un peu plus prier. Je vais peut-être marcher sur les genoux. Je vais demander plus pardon à Jésus. Au fait, combien de fois est-ce qu'il faut demander pardon jusqu'à ce que Dieu nous pardonne? 7 fois, 77 fois. Ouais, ben c'est pas mal. Vous avez compté à chaque fois et vous dites, hein, vous comptez à chaque fois, hein. Et là, il compte à chaque fois. Alors, ça fait une fois, 7 fois, 77 fois, ça fait 400 et quelque chose. Ok, j'ai pas encore demandé 400 fois pardon, donc Dieu ne m'a pas pardonné encore. Là. Quand tu demandes pardon, si nous reconnaissons nos péchés, une fois, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si tu crois que c'est 500 fois et quelque chose, bah, toute la journée, tu es en train de demander pardon. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Tu demandes pardon, tu prends le pardon, tu crois que Dieu t'a pardonné et tu marches dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que des fois, notre chair, elle est très religieuse. Notre chair veut faire plein de choses pour Dieu. Et tu vois, Dieu, je fais tellement de choses et je veux tellement mériter ton pardon et je prie tellement et je lis tellement la Bible. Je dis pas de pas prier, je dis pas de pas lire la Bible, c'est pas ce que je dis. Mais quelle est la motivation de notre cœur? Tu vois Dieu comme je suis bien? On essaye de faire pénitence vis-à-vis de notre péché. Qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On dit, Seigneur, le sacrifice que tu as fait à la croix n'est pas suffisant. Il faut que je rajoute quelque chose. Il faut que peut-être je lise un peu plus ma Bible. Il faut peut-être que je prie un peu plus. Il faut peut-être que je donne un peu plus à l'église. Il faut peut-être que je fasse ceci, fasse cela. Tout ça, c'est anti-biblique. Il est juste et fidèle. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle et il nous a pardonné. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es pardonné, mon ami. Le problème est le suivant. Excusez-moi, je mange juste un peu quelque chose. Mais le problème est le suivant. Vous savez, je sais exactement comment le péché fonctionne. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que je suis comme vous, je pêche des fois. Ça va? Alors regardez, ça c'est le péché. Par exemple, hein, ça c'est un péché. Je ne sais pas ce que ça peut être, n'importe quoi. Hein. Ah, vous êtes là, oh, le diable vous dit, ou votre chair, regarde, prends-le. Mais tu sais que ce n'est pas bon de le prendre, parce que la parole de Dieu ne dit pas faire ça. Mais tu es là, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas pécher. Et la pensée revient, prends-le. Je n'ai pas péché. Prends-le. En fin de compte, c'est vrai, il y a quand même des avantages. Parce qu'il y a des avantages à pécher. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Ça procure un certain plaisir. Parce que si vous péchez, vous croyez que ça ne vous procure pas de plaisir. Vous avez réellement un problème. Il faut prier pour vous. Mais le diable nous fait croire, il nous fait miroiter des choses, parce que c'est un menteur, que le péché, et parce que le péché a quelque chose d'attrayant. Non? Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce que Dieu ne veut pas que vous preniez. Donc d'abord, il vous tente, parce qu'il s'appelle le tentateur. Et une fois que vous avez pris, qu'est-ce qu'il fait? Il devient l'accusateur. Il commence à nous accuser. Il dit, tu vois, tu as fait ça, tu as péché, maintenant Dieu ne t'aime plus. Il se transforme, la Bible dit, en ange de sainteté. Ça veut dire qu'il se fait passer pour le Saint-Esprit. Mais le rôle du diable, c'est de t'accuser. Le rôle du diable, c'est d'amener la condamnation. Pourquoi? Pour que tu n'ailles pas vers Dieu. Il te fait croire Dieu ne t'aime plus, et ainsi de suite. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre pour te ramener à Dieu. Parce que le seul qui peut te pardonner, c'est Dieu. Et le diable, il veut t'éloigner de Dieu pour que tu ne puisses pas recevoir le pardon. Mais le Saint-Esprit, il va t'attirer vers Dieu. Il va te convaincre de péché. Il va te convaincre, hein. Mais il va aussi te convaincre de la justice de Dieu, que Dieu est juste et que l'acte a été accompli à la croix de Golgotha. Mais si tu ne sais pas, tu vas vivre dans la condamnation, tu vas continuer à le prendre. Mais Dieu veut que tu prennes, que tu amènes ça à la lumière, que nous confessons nos péchés, que nous disons ces choses-là, et le sang de Jésus va nous laver, il va nous purifier, comme si nous n'avons jamais péché. Quand nous avons péché, la Bible dit que Dieu prend nos péchés, et autant l'Orient est loin de l'Occident, autant nos péchés sont éloignés de nous, et Dieu ne se rappelle plus. La Bible dit que Dieu prend les péchés, il les jette derrière lui. Dieu, il ne les voit plus. Imaginez-vous l'apôtre Paul, un bon exemple de ça. Imaginez-vous l'apôtre Paul. Vous connaissez tous l'apôtre Paul, la Bible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait avant d'être chrétien? Il persécutait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Et un moment dans la parole de Dieu, vous lisez Paul qui dit « Ma conscience est pure devant Dieu. J'ai aucun péché, ma conscience est pure devant Dieu. » Pourquoi est-ce que Paul pouvait dire cela? Parce que Paul se fiait en la parole de Dieu, plus qu'en ses émotions, plus qu'en ce que le diable lui disait. Il se fiait en la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est très claire. Dieu se rappelle plus de tes péchés. Dans la parole de Dieu, il est dit, Dieu ne trouve aucun péché en Israël. Quand tu as accepté Jésus, tu es couvert, tu es lavé par le sang de Jésus, et le sang de Jésus te couvre. Dieu te voit saint, Dieu te voit parfait, Dieu voit plus de péché en toi. Waouh ! Mais pour s'approprier de ça, il faut de la foi. Il faut de la foi. C'est par la foi qu'on s'approprie les choses de Dieu. La foi, c'est se saisir. La foi, c'est prendre. Et nous devons nous faire violence. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas frapper ton voisin ou ta femme. C'est pas ça, être violent. Être violent avec soi-même. Être violent avec la chair qui essaie de dire non, c'est pas possible. Être violent avec tous ceux qui veulent te dire que c'est différent, que c'est pas juste et c'est pas possible. Vous savez? Pour ceux qui connaissent mon passé, j'étais proxénète et trafiquant de drogue. Imaginez-vous, je viens à Jésus. Jésus me sauve, il me lave, il me purifie. Et d'un seul coup, je suis devant Dieu, sans péché, plein de joie, rempli de joie, en train de louer Dieu et tout. Et l'ennemi vient, une pensée me vient. Elle me dit, mais tu crois que Dieu peut te pardonner aussi facilement? Tu crois que Dieu peut te pardonner aussi facilement? Tu as vu ton passé? Tu as vu tout ce que tu as fait? Tu as vu toutes les erreurs, toutes les bêtises que tu as fait? Tu as vu? Purée, j'avais un problème là. J'avais vraiment un problème. Parce que c'est des pensées qui m'assaillaient. C'est des pensées qui ne me laissaient pas tranquille. Et j'ai dit, Père, il faut que tu me parles. Parce que Dieu est mon Père. Et vous savez, c'était quelques jours après ma conversion, hein. Je ne connaissais pas la Bible. En prison, on ne lit pas la Bible. Dans le milieu, on ne lit pas la Bible. Hein. On lit d'autres bouquins, si on lit. Mais ça, je ne lisais pas. Et je dis, Père, il faut que tu me parles. Et Dieu m'a donné un verset. Écoutez bien. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Écoutez bien ce que ce verset dit. Si, la condition, si quelqu'un est en Christ. Et quand nous avons accepté Jésus, il nous a mis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est, pas il sera. Il est, pas il sera. Il est présent. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, écoute-moi bien, Satan. La parole de Dieu dit que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le Thierry Cop que tu connaissais, il a été crucifié avec Christ et il est ressuscité avec Christ. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Amen. Ce que tu étais avant n'existe plus. Tu as été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié et tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Alléluia. Tu es ressuscité avec lui. Amen. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, et tu règnes avec Christ. Waouh! Tu es un roi, parce qu'il est le roi des rois. Tu es une reine. Et un roi et une reine, ils ne se comportent pas n'importe comment. Un roi et une reine, ils règnent. Hallelujah! Et comment tu règnes? Par l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais si le diable vient et qu'il arrive à t'accuser, qu'est-ce que ça va produire? Si tu crois les mensonges du diable, qu'est-ce que ça va produire? Tu vas pas marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Au lieu de marcher dans la victoire, tu marches dans la défaite. Si tu marches dans l'accusation, qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas venir à Dieu. Je peux pas demander l'aide de Dieu. Je peux pas combattre le diable parce que j'ai des péchés. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et le diable, il dit, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu dis, c'est vrai. En fin de compte, tu te mets d'accord avec le diable au lieu de te mettre d'accord avec Dieu. Sois en accord avec Dieu. Amen. Amen. Être en accord avec Dieu, c'est l'humilité. Être en accord avec Dieu, c'est l'humilité. Dieu dit, dans sa parole, Dieu dit, dans sa parole, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous, ça signifie on est en accord avec Dieu. Et le verset d'après dit, résistez au diable. Si vous êtes humble, vous recevez le pardon de Dieu. Pas parce qu'on le mérite, c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu nous donne son pardon. Là, on est humilié sous la main puissante de Dieu. Et là, on peut résister au diable. Mais si on ne reçoit pas le pardon, on ne peut pas résister au diable. Bien que le diable soit vaincu, bien que ton ennemi soit vaincu, s'il arrive à te mentir, tu n'arriveras pas à avoir la victoire. Tu n'arriveras pas à lui résister. Le moyen de lui résister, c'est de recevoir la vérité, de croire la vérité et de marcher dans cette liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. J'ai encore le temps. Ok. Ça va jusqu'à présent? Tout le monde suit? Ok. Mais il y a une condition au pardon. Une des conditions du pardon. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14 nous dit: si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc nous voyons, le pardon est conditionnel. Si toi tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, comment veux-tu que Dieu te pardonne? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire la même manière que toi tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Aïe. Ça fait mal, hein? Ma question est, est-ce que tu as pardonné? C'est ma question. Comment savoir si on a pardonné? Par exemple, une personne t'a fait du mal. Tu dis, voilà, je vais pardonner. J'ai pardonné. Puis tu marches dans la rue et la personne marche juste en face de toi. Et là, tu la vois, oh, change de trottoir. Je préfère aller ailleurs. Ben, tu sais quoi? Tu ne lui as pas pardonné. Parce qu'il y a du ressentiment dans ton cœur. Et après le ressentiment, il peut y avoir des sentiments de vengeance. Il peut y avoir de l'amertume dans ton cœur. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de racine d'amertume. Le problème, c'est que c'est une racine. Et que les racines, on ne les voit pas. Mais on voit les fruits. Parce que chaque racine produit des fruits. Donc, il faut regarder les fruits. La Bible a dit qu'on regarde l'arbre aux fruits. Et beaucoup de gens, ils regardent toujours les fruits des autres arbres. Au lieu de regarder les propres fruits de leur propre vie. Mais quels sont les fruits de ta vie? Est-ce que tu es carrément méchant, jamais content? Est-ce que tu es toujours en train de grogner? Est-ce que tu es toujours en train de critiquer? C'est que certainement, il y a une racine dans ton cœur qui n'est pas très bonne si tu ne produis pas de bons fruits. Mais si la racine est bonne, tu as des bons fruits. Vous voyez? Comment faire pour reconnaître la racine, si elle est bonne ou si elle est mauvaise? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si tu as des mauvais fruits, il y a une mauvaise racine. Si tu as des bons fruits, il y a une bonne racine. C'est aussi simple que ça. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans Hébreux 10, verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, « Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. » Waouh! « Et notre corps a été lavé dans une eau pure, alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. » Si tu crois avec assurance, c'est une certitude, c'est une conviction, tu es sûr que tu es lavé d'une eau pure, tu crois ce que la Bible dit. Deuxièmement, regarde les réactions que tu as avec les personnes que tu as blessées ou qui t'ont blessé. Troisièmement, est-ce que notre santé physique se détériore-t-elle après une dispute? Il est important pour nous de comprendre que nous pouvons purifier notre cœur. Comment? En amenant nos blessures à Dieu. En amenant les blessures à la croix. Tu dis, Seigneur, j'amène ma blessure à la croix. Cette personne m'a pardonné, cette personne m'a blessé, mais je lui pardonne. Un jour, j'étais dans une église. Et j'étais membre de l'église. Et le pasteur, il m'a fait des 400 coups. Il m'a fait que des crasses. C'était un sacré pasteur. Il m'a fait que des crasses. Terrible. Mais je savais que Dieu m'a mis dans cette église et que Dieu voulait que je lui parle à ce pasteur. Et je lui ai parlé. Dieu m'a donné une parole et il n'a pas accepté ça. Il allait contre moi, il me persécutait. Mais j'ai dit, moi je ne bouge pas tant que Dieu ne me dit pas de bouger. Et dans la prière, je suis là et Dieu me dit, pardonne-lui. Mais je vais pardonner, Seigneur. Dieu me dit, pardonne-lui. Je dis, mais je vais pardonner. Rappel, pardonne-lui. Vous savez, Dieu a toujours raison. Vous avez remarqué? Dieu a toujours raison, il ne se trompe pas. Si Dieu me dit de lui pardonner, c'est que certainement, je ne lui ai pas pardonné. Ah, je dis, bon Seigneur, je lui pardonne. Et là, Dieu me dit, bénis-le. Je dis, quoi? Bénis-le. Je dis, oh, mais Seigneur, là, t'exagères quand même. Bénis-le. Et Dieu me dit, bénis-le. Je dis, bon Seigneur, je le bénis. Dieu me dit, non. Je dis, mais Seigneur, je viens de le bénir. Mais il me dit, pas comme ça. Je dis, mais comment Seigneur? Il me dit, je veux que tu commences à prier pour lui, que je fasse pour lui ce que j'aimerais que je fasse pour toi. J'ai dit, ok. Seigneur, merci de le bénir dans ses finances, merci Seigneur de le bénir dans sa famille, merci Seigneur. Et pendant que je priais, je me suis mis à pleurer. Dieu était en train de guérir mon cœur. Le pardon est l'acte le plus égoïste que tu puisses faire. Le pardon est l'acte le plus égoïste que tu puisses faire, parce que celui qui en profitera le plus, c'est toi. Je répète cela. Le pardon est l'acte le plus égoïste que tu puisses faire. Mais des fois, des gens me disent, c'est vrai, mais je ne peux pas pardonner à cette personne. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas pardonner à cette personne parce que cette personne ne le mérite pas. C'est vrai, on entend ça des fois. Hein. Je ne peux pas lui pardonner, elle ne le mérite pas, elle m'a fait trop de mal. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Dieu nous a pardonné? La Bible dit que oui. Si tu le crois, c'est bien. Mais ma question est, est-ce que tu as mérité le pardon de Dieu? Tu ne l'as pas mérité. C'est la grâce. La grâce, c'est quand Dieu te donne ce que nous ne méritons pas. Et nous ne méritons rien. Donc Dieu nous a pardonné. Et parce que Dieu nous a pardonné, il nous a fait grâce.